Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Radio Aligre. Bienvenue, nous sommes le jeudi 16 mai 2019 et vous êtes pour une petite heure avec nous sur l'émission Philosophie au présent, émission du Collège international de philosophie avec moi-même Nathalie Perrin et Isabelle Raviolo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous chers auditeurs.
Bonjour, on va faire aujourd'hui une émission, voilà, on recommence un petit peu un cycle d'émissions sur philosophie et esthétique de manière générale, philosophie et art. Et là, pendant au moins deux séances, on s'était dit, peut-être même 3-4, on voudrait vous faire part de nos coups de cœur cinématographiques, qu'ils soient au présent ou au passé. Et aujourd'hui, eh bien, il va s'agir de Monsieur Franck Borzaghi. J'ai appris, grâce à Isabelle, qu'on ne prononce pas du tout Franck Borzage. Mais non, c'est trop franco-français. C'est Borzaghi. Voilà, d'origine italienne, c'est ça, Isabelle?
Oui, merci Nathalie. Alors, Franck Borzaghi, 46 ans de carrière, acteur, réalisateur américain. Nathalie, il est né le 23 avril 1893 à Salt Lake City et il est mort le 19 juin 1962 à Hollywood. Alors, il a un parcours d'autodidacte, Franck Borzaghi, et il commence comme acteur en jouant le rôle d'Hamlet. Puis il va enchaîner les rôles à partir de 1912 et passe très vite derrière la caméra pour réaliser une quinzaine de films muets. En 1916, ce réalisateur va faire une carrière très brillante puisque très vite, en 1925, il entre à la Fox où il va côtoyer Ford, Murnau, Walsh et le jeune Howard Hawks. Ces 15 films muets font effectivement aujourd'hui l'objet d'études de la part notamment des cinémas d'art et d'essai, des cahiers du cinéma. Et puis Franck Borzaghi, à l'avènement du parlant, réalise un grand succès, Bad Girls, Mauvaise Fille, en 1931. Et puis il va s'emparer d'un roman d'Ernest Hemingway en 1940, L'adieu aux armes. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu l'œuvre cinématographique de Franck Borzaghi, Nathalie...
Elle est colossale, hein. Elle est colossale. Et là tu parlais d'Hemingway à l'instant, j'ai vu aussi qu'il avait repris une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald.
Exactement.
Fitzgerald a fait l'adaptation lui-même, hein. Ça s'appelle Three Comrades. Là, je suis très curieuse de voir ça. C'est vraiment une œuvre muette que moi j'ai découvert grâce à toi, hein. Je ne connaissais pas. C'est considérable, ça, la partie muette de son cinéma.
Alors, il y a toute la partie muette, il y a le passage au parlant,
oui,
mais il y a aussi le passage à la couleur, c'est ce qui est intéressant. Et puis, ces derniers films dont on peut retenir un titre, Nathalie, en 1949, Le Fils du Pendu. Il y a vraiment un très beau film, mais il a aussi essayé le genre western, le genre pirate, avec Pavillon Noir, en 1945, je l'ai vu pendant les vacances de Pâques, et un film tout à fait étonnant, une comédie qui s'appelle Désir, et une autre, un peu plus tard, Chagrin d'amour. Alors vraiment, c'est un cinéaste qui parvient à se reconvertir, qui s'essaye à différents genres cinématographiques, et qui a quand même, dans toute son œuvre, un fil rouge, une sorte de ligne de conduite, c'est le thème de l'amour. Alors, comment il va le traiter, l'amour? Et ça, c'est intéressant, et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui à nos auditeurs de Radio Aligre. Pour Franck Borzaghi, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans son œuvre, hein. Moi, j'ai commencé par regarder Lucky Star, et puis ensuite...
C'est un chef-d'œuvre, j'espère. On en reparlera.
On va en reparler, puisque c'est le film que j'ai choisi aujourd'hui. Ouais, ouais. À mon avis, mal traduit en français par L'Isolé, mais on y reviendra. Donc, l'amour pour Franck Borzaghi, c'est un amour fou, un amour absolu. Un amour qui a ses raisons que la raison ne connaît pas. Autrement dit,
pour ne pas citer Pascal,
voilà,
c'est ça.
qui est toujours victorieux du malheur, du mal, des épreuves. Et s'il connaît l'épreuve, hein, bien sûr, il s'en sort toujours parce qu'il est plus fort que tout. Alors on pourrait aussi reprendre hein, ce passage du Cantique des Cantiques à la fin des poèmes. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. L'amour plus fort que la mort, l'amour plus fort que le malheur. C'est cet amour qui va servir de ligne de conduite, de thème central qui traverse l'œuvre cinématographique de Franck Borzégui et la seule aventure qui vaille la peine d'être vécue. Le beau risque à courir, c'est bien cet amour plus fort que la mort qui transcende le mal. Alors, c'est vrai que c'est pas un cinéaste, contrairement à Griffith et à Ford, Nathalie, qui s'est intéressé à la communauté, au groupe, à la société. Il se concentre davantage sur le couple. Voilà. Et ce couple porte un absolu. L'absolu de l'engagement, de l'amour, l'absolu d'une pureté, dans cet amour hein, qui n'est pas intéressé, justement, on ne tombe pas amoureux parce qu'on y a intérêt ou que c'est calculé, ou pour de l'argent, ou pour un statut social. Mais c'est cet amour qui est libre, libéré des normes, des contraintes, des diktats, et qui porte en lui un idéal de pureté, qui est réalisé dans les films de Franck Borzégui, qui est très très bien mis en scène à travers le cadrage, la lumière, la direction d'acteurs. Alors justement, les acteurs, parlons-en, hein, ils tournent souvent, et notamment dans ces muets, avec un couple, Janet Gaynor et Charles Farrell, hein, qui se retrouvent dans Lucky Star,
qui sont extraordinaires.
Et qui sont vraiment extraordinaires. Hein.
Alors là, ça justifie, enfin, ce film, Lucky Star, vraiment justifie l'appellation de poète du couple que j'ai pu lire dans les fiches cinématographiques qui existent sur Borzégui. On l'appelle
beaucoup.
Le poète du couple. C'est vraiment là, ce film, Lucky Star, c'est absolument ça. Hein.
Voilà.
Des acteurs magnifiques, mais d'une modernité. Enfin, celui qui joue l'homme, comment s'appelle-t-il ?
Charles Farrell.
Charles Farrell, mais est extraordinaire de modernité. Ce film date de quelle année ? Je me souviens plus.
1929.
C'est
Lucky Star.
Incroyable la modernité de ce jeu.
Je trouve aussi.
Quand on pense au cinéma qui se fait même aux États-Unis à cette époque-là. Enfin, là, il y a quelque chose de. C'est à se demander s'il n'est pas réellement handicapé. Hein. C'est vrai. Hein, la manière dont il joue est extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, Nathalie, quand le film est sorti. Hein, en France, il n'a pas été très bien reçu.
Oui, j'étais. Alors là, c'est intéressant parce que hier, pour préparer un peu l'émission, j'ai regardé les grands critiques cinématographiques français. Donc j'ai regardé Serge Danet, j'ai regardé aussi
Marcel Carnet.
Voilà, et j'ai regardé aussi Bazin. Bon, j'ai regardé les deux puisque ce sont les deux grandes références en France, en tout cas ceux qui sont. J'ai été très surprise de ne rien trouver comme référent chez Serge Danet. Alors pourtant je possède quand même beaucoup de livres, et chez Bazin, j'ai pas vu non plus de références ou d'écrits sur Borzégui. Alors j'ai été très surprise.
En effet.
Et comment tu peux expliquer ça ?
Alors, en France, seul Marcel Carnet a défendu le film.
D'accord.
Il est passé inaperçu ou a été mal reçu parce que le style n'a pas plu, le travail sur la direction d'acteur, sur la manière de cadrer, n'était pas encore bien accepté dans l'esthétique cinématographique de l'époque. Et puis cette conception de l'amour très idéalisée aux yeux, en tout cas de beaucoup, ne plaisait pas, n'a pas plu. Alors Marcel Carnet, en revanche, a bien montré que dans l'œuvre de Borzégui, il y avait tout un travail très proche du travail sur la lumière qu'on peut retrouver chez Eisenstein, hein, et même aussi chez Chaplin. Hein, c'est tout un travail qui met en lumière une association très intéressante entre le paysage et l'acteur. Et ce paysage n'est pas seulement un décor ou une illustration en arrière-fond, Nathalie. C'est un personnage à part entière, il me semble. En tout cas, c'est ce que je voudrais défendre à travers cette ligne thématique de l'amour fou, de l'amour absolu qui a ses raisons que la raison ne connaît pas. c'est que la neige dans Lucky Star, c'est un personnage. La neige dans sa labilité, la neige dans son évanescence, c'est bien le propre de l'inappropriable. C'est-à-dire, au fond, d'une présence diffuse, d'une présence qui se retire dès lors qu'on cherche à la saisir. Et c'est peut-être non seulement la symbolique qui métaphoriquement parcourt le film, mais c'est aussi la présence qui enveloppe les personnages comme une fragrance, comme un parfum, et qui, dans son caractère d'évanescence ou de presque disparition vibratoire, pour reprendre Stéphane Mallarmé, a le signe, la manifestation même de cette pureté de l'amour. La blancheur, la lumière qui recouvre le paysage, qui recouvre les acteurs, les personnages, eh bien, Kurosawa s'en souviendra à travers l'idiot qu'il représentera toujours sur fond de paysage neigeux.
Cette neige est là, présente. Peut-être là, je me rends compte qu'il faudrait peut-être qu'on me rappelle aux auditeurs un petit peu la trame de ce film. Et peut-être aussi que l'on parle un peu des cadrages, de la manière dont il fait les plans. Moi, j'ai été assez étonnée de cela. Alors, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Comment commence le film? C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marie,
Mary.
Et moi, ce film peut être vu librement sur Internet. Pas dans des versions extraordinaires. Le mieux étant de voir au cinéma. Et d'acheter le DVD, s'il existe, mais en tout cas on peut le voir sur Internet, mais la qualité n'est pas terrible. Donc c'est l'histoire de Mary qui travaille, qui fait tout dans la maison avec ses frères et sœurs. Elle est seule avec sa mère, il n'y a pas de père.
Oui, c'est la veuve Tucker.
C'est la veuve Tucker. Et puis elle fait la rencontre, alors elle livre le lait, elle vend des poulets, elle vend son lait, elle récupère des petits sous pour sa mère dans sa petite chariote, et puis d'un seul coup, elle rencontre sur une route, elle voit des hommes qui sont là pour le télégraphe ou pour des pylônes, enfin qui travaillent sur les pylônes pour le télégraphe. Et là commence une espèce de rencontre entre deux hommes qui vont se battre un petit peu pour elle parce que, sur un petit mensonge, il y a un des deux hommes qui lui a lancé comme ça un nickel, un petit centime, et puis elle dissimule sous un pied, elle dit mais non, vous ne me l'avez pas donné, et puis lui, il dit mais si, je te l'ai donné, etc. Et puis s'ensuit une petite bagarre avec un autre monsieur qui était là haut sur le pylône, etc.
Oui, voilà. Parce que Mary, Nathalie, est quand même la jeune fille qui aide financièrement sa mère, qui a charge des frères et sœurs en bas âge, et donc qui pratique un peu le larcin.
Voilà, elle n'est pas très, très honnête moralement.
C'est important.
C'est complètement. Oui, c'est très important parce que c'est un film, en fait, qui parle d'un milieu très, très simple. Ce n'est pas du tout la très noblesse, pauvre, c'est vraiment les très pauvres des États-Unis, de ceux qui se débrouillent au jour le jour. Et donc, de cette rencontre avec ces deux hommes, c'est quand même malgré tout très bien filmé parce que ces deux hommes se sont battus pour elle. Et puis, le deuxième va découvrir qu'elle a un petit peu menti. Bon, on en reste là. Ils partent tous les deux à la guerre, en France, faire donc la Première Guerre mondiale. Et puis, elle leur envoie des lettres, une lettre à chacun. Et puis, un des deux va revenir. Là, je passe très vite. Un des deux va revenir. Handicapé, il s'est pris une bombe à cause de son camarade d'ailleurs, qui est plutôt malhonnête. Et c'est Tim qui revient handicapé sur un fauteuil roulant, qui revient donc vivre dans le village ou dans le hameau là où habite Marie. Et s'ensuit une rencontre, une découverte, d'abord sur le mode de l'amitié, parce que lui est très seul, et puis elle le cherche un petit peu comme un petit animal, quoi. J'aimais bien aussi cette manière dont ça a été filmé. Elle l'observe, elle le taquine, elle va le chercher, et s'ensuit la découverte d'une amitié qui va devenir progressivement un amour. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est précisément le cadrage des visages. Il y a un travail sur les visages chez Borzegui, en tout cas dans ce film, qui est absolument fabuleux, qui est très loin de l'expressionnisme, qui donne un naturel aux acteurs, qui filme les acteurs de manière naturelle et qui les dirige de manière naturelle. J'ai été très surprise de voir dans quelques articles que j'ai pu lire qu'on critiquait sa direction d'acteur. Je trouve au contraire que c'est une direction d'acteur qui est peut-être pas extrêmement présente, mais qui justement annonce la modernité du cinéma, précisément. Hein. Voilà, mais je te laisse la parole. J'ai vraiment été étonnée par ce film et tous ces petits détails de la rencontre, amitié, puis progressivement amour de cet homme, Tim, donc handicapé, sur un fauteuil roulant, qui va aussi se charger d'embellir cette jeune fille de 18 ans, de lui montrer qu'elle est une femme. Y a là aussi un rapport homme-femme qui est absolument magnifique
pour cette époque-là. Oui, on peut le dire. C'est vraiment le couple qui est l'objet de d'études, au fond, de l'œuvre de Borzegui. Et puis, quand tu dis, Nathalie, que oui, c'est l'amour qui parvient à faire de cette jeune fille, Mary, une jeune fille honnête, propre, une femme aussi, puisqu'elle passe de l'état de jeune fille à l'état de femme, c'est un des pouvoirs inhérents à l'amour, ce pouvoir transformateur. L'amour est plus fort que la mort, mais l'amour métamorphose aussi. L'amour, c'est le miraculeux précaire. C'est pas le miraculeux, comme on pourrait se l'imaginer.
C'est le miraculeux terrestre.
C'est le miraculeux terrestre.
Oui, oui.
Enfin, si l'on peut employer même le mot miraculeux, c'est les petites grâces de l'existence, au fond.
Oui, mais c'est très beau, miraculeux terrestre. Voilà. Ouais, les petites grâces de l'existence.
Moi, je trouve que cet éclat du précaire, qui est le propre des films de Borzegui, se retrouve dans l'épreuve que chaque personnage traverse pour lui-même, mais jamais de manière isolée, mais toujours avec les autres. C'est pour ça que traduire Lucky Star par l'isoler,
c'est complètement
stupide.
Quoi. N'importe quoi. Mais comme seuls les Français sont capables de le faire quand ils se sont mis à traduire les.
Voilà, j'ai même vu des sites internet, Nathalie, où il y a marqué l'idole.
Non, mais c'est juste hallucinant. Enfin, on invite évidemment les auditeurs à aller voir Lucky Star sur. Ne serait-ce que sur Internet, et puis après, certainement la cinémathèque, etc. Bon, mais c'est incroyable. Enfin, d'ailleurs, comment tu l'entends, toi, Lucky Star?
La bonne étoile.
La bonne étoile. Mais la bonne étoile, c'est qui? C'est Tim par rapport à Mary, enfin, qui devient Baba, qui le surnomme Baba.
Et c'est Mary par rapport à Tim.
Voilà, exactement.
C'est ça le couple, en fait. C'est jamais l'un. Sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et dans cet avec, il faut penser la relation lévinassienne, en fait. C'est-à-dire le visage qui parle, le visage qui est en gros plan, la plupart du temps, notamment le gros plan sur Mary, quand Tim lui lave les cheveux avec des œufs.
C'est magnifique.
C'est absolument magnifique.
Magnifique.
Donc là aussi, il y a une transformation très très simple, en fait. Elle ne sait jamais laver les cheveux ou très peu, donc elle paraît toute brune, mais elle a de la crasse. Et en fait, elle s'avère être une jeune fille magnifique, toute blonde.
Voilà. Donc, mais ce qui est très beau, c'est que c'est lui le moteur de cette mise en beauté. C'est parce qu'il la voit déjà belle, donc il remet dans la réalité ce que lui a perçu très tôt et qu'elle ne perçoit pas d'elle. Elle ne se perçoit pas comme une femme. Elle se perçoit comme une sœur, une deuxième mère pour ses frères et sœurs et puis l'adjuvante de sa mère pour aller chercher l'argent, etc. Mais elle ne se perçoit pas comme une jeune femme. Et c'est lui qui le voit. Mais cette séquence des œufs, elle est absolument splendide. Là.
Et puis, tu te souviens aussi de la séquence où... comprenant que c'est important d'être propre, parce que lui a dit que c'était important de se laver, qu'elle l'intériorise aussi, c'est un peu comme un enseignant, au fond, ce Tim pour elle. Un père, un enseignant, le père qui n'est pas présent chez la veuve Tucker, elle est veuve, justement. C'est aussi un substitut paternel, ce Tim. Et donc, elle va se laver à la rivière. À un moment, lui le remarque. Et puis, la caméra fait un travelling arrière, demi-plan sur Mary et gros plan sur Charles Farrell, Tim, pour montrer que Tim a un sourire. Il comprend que elle a conscience de se laver et ensuite il se retire, il ne la regarde pas. Et moi j'aime beaucoup cette scène aussi parce que Franck Borzégui appuie un des fondements de l'amour pur, c'est la pudeur. Cette pudeur qui est toujours en mi-teinte au fond, c'est-à-dire qui est à l'image de la neige, qui ne se donne pas totalement, mais qui indique une présence, qui fait signe vers quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand qui transcende simplement les prises, les appropriations, les volontés d'avoir et de posséder, fait tout l'érotisme de ce film, au fond. Il y a une grande érotique chez Franck Borzégui, si l'on entend par là, un désir croissant, un désir qui est le propre, finalement, d'une conduite vers le bonheur, c'est-à-dire cette joie de vivre, cette joie d'être avec l'autre, d'être en sa présence, pour être simplement avec quelqu'un, c'est-à-dire dans la lumière de son visage.
Oui, ça c'est, il faut, bon, quand tu évoquais tout au début de l'émission la présence de la neige, il faut donc dire aux auditeurs que cette présence de la neige, elle arrive dans la dernière partie du film. Oui. On va essayer de ne pas raconter l'histoire, mais ça va être difficile. Mais quand tu utilisais tout à l'heure l'expression d'amour miraculeux, comment tu disais ça?
Ouais, l'amour miraculeux, oui. Moi je l'entendais effectivement, c'est un amour qui donne aux petites choses, aux petits riens de l'existence journalière, la force d'une présence métamorphosante, transformatrice, précisément parce que elles sont habitées par l'amour.
Complètement. Et d'ailleurs, il y a tout. Parce que Tim, il a une marotte. Sa marotte, c'est de reprendre des vieux objets, de leur redonner vie. D'acheter des objets un peu comme on ferait des brocantes aujourd'hui et de leur redonner une vie. Et c'est marrant comme cette marotte, elle arrive au moment où lui revient de la guerre, retourne dans cette maison qu'il a, petite maison modeste, et que Marie arrive dans sa vie. Donc cet amour passe aussi par les objets. Enfin, tout devient lumineux, tout devient amoureux, tout devient objet de désir et de transformation par ce couple qui se rencontre.
Oui, c'est très important de le dire. Tu as raison de rappeler cette présence des objets dans le film, cette présence des objets qui va avec, au fond aussi, cette présence du paysage chez Franck Borzégui et le cadeau qu'il lui fait.
Absolument. Et il y a est-ce que je reviens sur cette idée du couple, parce que le couple, bon, on sait bien, on en a une image, bon, aujourd'hui, qui est pas toujours très belle, bon, qui malgré tout repose encore sur des dominations, bon, quelles qu'elles soient. Or là, il s'agit vraiment pour l'époque, je rappelle, on est dans les années 30, d'un acteur qui porte la figure d'un masculin, qui est d'abord un masculin diminué, il est handicapé, donc se pose toute la question en arrière-fond de sa puissance sexuelle, de sa puissance masculine. Est-ce qu'il va... C'est des questions que moi je me suis posées, donc je les redonne telles quelles. Est-ce qu'il va pouvoir contenter cette jeune fille si le mariage se fait, si leur relation amoureuse se fait, etc. Il y a toutes ces questions-là. Et puis c'est aussi par rapport à ces objets, c'est un homme qui a de l'élégance, qui a du goût. C'est pas du tout, alors, le contraire qu'est son faux ami militaire, oui. Puisqu'il est handicapé à cause de ce faux ami militaire qu'il a envoyé sur une mission que lui aurait dû faire. Bon. Il a un opposé, Tim, c'est son ex-copain militaire, qui lui, au contraire, représente le machisme militaire dans toute sa splendeur, le séducteur, le prétentieux, l'orgueilleux, etc. Et Mary va être prise entre cet homme orgueilleux, prétentieux, et l'amour qu'elle a pour Tim, mais un amour qu'elle n'ose pas dire. Bon, il y a aussi toute cette idée que c'est à l'homme de faire la démarche, c'est à Tim d'aller la chercher, etc. Et toute la fin du film, bon, on la raconte pas, mais c'est vraiment ce miracle qui se produit. Enfin, là au sens vrai du terme. Voilà, dans la neige.
Neige qui est un peu finalement, si on rejoint la littérature antique, le même rôle qu'aurait pu avoir une déesse dans Homère, oui. C'est-à-dire le rôle d'un adjuvant qui, par sa pureté, justement, une déesse de la pureté, aide le pur, le cœur pur, et donc redonne la vue aux aveugles, et aveugle ceux qui voyaient, redonne la marche à ceux qui ne marchaient plus, et handicap ceux qui marchaient. Exactement. Donc elle renverse au fond cette neige, hein, en arrière-fond, mais parce qu'elle est porteuse du pouvoir de l'amour que les personnages lui donnent, justement. Parce que la neige toute seule, sans nous, elle n'est rien. Hein, c'est bien comme sûr. Notre relation mystique. C'est une relation, c'est une alliance. L'alliance de la neige au personnage amoureux fait que la neige va être chargée d'un pouvoir, hein, et ce pouvoir va rétablir la justice.
Oui, elle est en même temps, elle est puissance d'empêchement. Enfin, voilà. elle peut empêcher possiblement Tim d'aller chercher Mary qui va être emmenée par cet autre homme militaire très machiste et qui veut absolument la posséder. Et donc, en même temps, la neige empêche Tim d'aller rejoindre Mary. Et en même temps, Tim, en luttant contre cet empêchement, fait de la neige une puissance qui va l'emmener vers son amour. Enfin, c'est vraiment une lutte puissance positive, puissance négative, puissance positive. Il y a là quelque chose entre l'affrontement, et j'affronte cet affrontement, et cet affrontement va devenir mon allié. Enfin, il y a vraiment là quelque chose de très important dans dans les dernières 15-20 minutes du film, qui sont absolument magistrales. Enfin, il y a une espèce de suspense là. Borzegui a bien regardé des gens comme Fritz Lang, etc. Bon, où là il y a une notion de suspense, où ça c'est vraiment le cinéma comme il a un petit peu disparu quand même aujourd'hui, hein.
Oui, tout ce travail sur le cadrage, la lumière. Absolument. Qu'on va retrouver chez un grand comme Eisenstein ou Griffith même, hein,
oui,
ou Ford.
Oui.
Bon, après voilà, c'est plus le même travail.
Tout
hein,
à fait.
Tu as raison.
Voilà.
Mais c'est intéressant parce que quand tu dis que la fin du film porte en elle le triomphe de la bonté, de l'amour pur et désintéressé contre Rain, le séducteur malhonnête, hein, qui manipule. On peut se dire, tiens, Borzegui verse dans un côté un peu manichéen. Mais au fond, non, parce que la poésie du film, sa sensibilité extrême, et puis ce travail sur les émotions rentrées, intériorisées, profondes, passe les critiques de ce pseudo-manichéisme qu'on pourrait reprocher au film.
Et je me rends compte, Isabelle, que là, on est en train de parler d'un film comme s'il était parlant. Il faut quand même qu'on redise aux auditeurs que là, on est en train de parler d'un film muet. Et moi, je l'ai vu avec les sous-titres américains. Et j'ai été... Bon, je ne suis absolument pas bilingue. Mon anglais est absolument terrible. Ça ne m'a absolument pas gênée. Et en regardant le film, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça ne te gêne pas? Alors évidemment, on le sait quand on a un peu lu, on a lu les critiques de gens comme André Bazin ou comme Serge Danet plus tard. Il est vrai qu'on a perdu quelque chose l'arrivée du parlant. Et là, on s'en rend compte, je trouve, chez Borzegui. Ils savent que le cinéma, c'est de l'image. Et on n'a pas besoin. Je crois que les auditeurs se rendent compte. On est en train de parler d'un film. Il y a pas de dialogue. Il y a juste ces petits panneaux qui arrivent de temps en temps. Alors c'est pas le départ du muet. Faut pas exagérer. On est en 1930. Il y a un savoir-faire. Il y a une certaine vitesse. D'ailleurs, il y a une vitesse chez Borzegui. On n'est pas du tout dans la lenteur du parlant tel qu'on pourrait se l'imaginer. Il y a une vitesse assez moderne dans les images et dans ces dialogues qui arrivent. Mais c'est incroyable. On peut se passer de dialogue. Enfin. Et là, il y a un art du cinéaste, hein, dans sa manière de penser le film, dans sa manière de le découper. À proprement parler, on est dans l'art cinématographique, c'est-à-dire dans l'art de l'image. De l'image qui peut se passer de la parole, qui peut se passer des dialogues, qui raconte par elle-même. Et voilà, par les visages, par les plans larges quand ils sont nécessaires sur les petites maisons, sinon sur des plans rapprochés où on est au cœur même avec les personnages dans leur et dans leur psyché, mais au sens positif du terme. Intérieur, mais intérieur au sens vraiment pas ce que l'on fait aujourd'hui avec le parlant, hein.
Oui, je trouve que ce que tu dis au sujet du muet est très juste, et j'ajouterais que le cinéma muet, de l'expérience que j'en fais, c'est qu'il appelle davantage une attention du spectateur.
Complètement, complètement.
Il nous demande, au fond, hein, il exhorte le spectateur, de manière plus ou moins consciente, à être beaucoup plus attentif, concentré, à pénétrer davantage dans le monde du film. Et le parlant, n'a pas les mêmes répercussions. Au fond,
bah oui, c'est ce que disait quelqu'un comme Alfred Hitchcock. Bon, Hitchcock était un grand, est passé du muet au parlant. Il disait là, et toute son œuvre cinématographique à Hitchcock, c'était l'idée de faire du cinéma parlant comme il avait pu faire du cinéma muet, c'est-à-dire vraiment d'abord et avant toute chose un travail sur l'image et non pas que la littérature imprime sa transcendance sur le cinéma. Bon, ça c'est tout un débat. Moi personnellement, c'est aussi un petit peu ce qui me pose problème avec Éric Rohmer, par exemple. Voilà, je trouve que c'est un cinéma beaucoup trop parlant. Mais bon, je peux me tromper. Mais là, en tout cas, il y a une force là, chez Borzegui, hein, pour tous ceux qui diraient que c'est un cinéaste mineur. Bon, mais on sait aujourd'hui que mineur, c'est un grand compliment. Qui dirait que, bon, cinématographiquement, ça casse pas trois pattes à un canard. Eh bien si, ça casse trois pattes à un canard, puisque on peut se parler ce film, on peut le saisir dans son intériorité sans qu'il ait besoin d'entendre quoi que ce soit. Il y a sur la version que j'ai vue sur internet une musique qui est mise sur ce film, je ne sais pas si c'est la musique initiale, on peut même couper la musique d'ailleurs qui n'est pas bonne hein, sur la version d'internet et regarder le film comme ça dans un silence total et lire de temps en temps les intertitres qui viennent. Et c'est vraiment là l'art cinématographique dans ce qu'il a de plus fort.
Il a été retrouvé aux Pays-Bas, ce film,
oui,
dans
j'ai
les
vu
années
ça.
90.
J'ai vu ça, il a été restauré.
Oui.
Oui, il a été restauré. Bon, on invite évidemment nos auditeurs à le voir. Mais chère Isabelle, je me rends compte que tu nous as choisi des musiques magnifiques et qu'on n'en a toujours pas passé une. Si on pouvait en passer au moins une, on
avec
commence.
Plaisir.
Voilà. Oh, et en plus, alors je dis aux auditeurs que c'est Isabelle Raviolo qui a monté entièrement l'émission aujourd'hui. Voilà, avec l'aide de notre technicien Gilles Brézard. Voilà, parce que moi j'y suis absolument pour rien. Mais Isabelle, encore vraiment, tu as choisi Brel d'abord quand on n'a que l'amour. Alors ça, c'est même pas la peine. Puis, chef-d'œuvre absolu. Puis après, il y a Piaf, La vie en rose. Bon, ça commence déjà très très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On met les deux chansons coup sur coup.
Ou peut-être d'abord Brel
voilà,
et ensuite
puis après
Piaf.
On reprend la parole comme d'habitude, on avait plein de choses à dire, il y aura peut-être une chanson qui va sauter, voilà. Bon, mais en tout cas pas Piaf.
Non.
Voilà. Donc on commence par Monsieur Brel quand on n'a que l'amour.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour terre pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Waouh, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais quand on écoute Brel, c'est, hein,
c'est bon. Sublime.
Ouf, là, on se dit que bon, on n'a jamais rien perdu puisqu'ils sont éternels. Mais enfin, quand même, ça serait pas mal d'avoir des gens à cette hauteur aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir choisi Quand on n'a que l'amour pour aller avec cette discussion un peu à bâton rompu et on se laisse aller à nos émotions. Ouf, ça change de la philosophie qui n'est pas toujours émotive. Et là, on parle de cinéma, alors on se laisse aller en y mêlant un peu de philosophie aussi sur monsieur Franck Borzeghi, que moi personnellement j'ai découvert grâce à Isabelle Raviolo qui a proposé cette émission autour de ce cinéaste et particulièrement autour de Lucky Star. Je te laisse la parole parce que...
Franck Borzeghi, voilà. Oui, Nathalie. Franck Borzeghi, ce réalisateur américain. Alors, on parle beaucoup de Lucky Star, hein, puisque c'est l'objet, c'est le film qu'on a choisi pour cette émission sur Radio Aligre ce matin, pour vous, chers auditeurs. Mais je vous exhorte à voir également L'Heure suprême, un film muet de 1927, L'Ange de la rue, 1928, La femme au corbeau aussi. Autant de films qui vous laisseront dans une grande émotion, puisque toutes ces histoires d'amour mettent en avant un idéal de la femme aussi. Hein.
Oui, oui, complètement.
Ça, c'est très intéressant,
oui.
Surtout dans ces années. La femme, voilà, est au même niveau que l'homme, au fond. Il y a vraiment une relation, et dans cette relation, il y a une entente mutuelle, une confiance et un grand respect. Et c'est extrêmement beau, parce
oui.
qu'il n'y a aucune domination, mais tu le disais avant la chanson.
Oui, oui, dans le film Lucky Star, le couple formé par ces deux acteurs absolument formidables de... réalisme dans le bon sens du terme, hein, au sens peut-être de Jean Renoir, bon, qui a très, très haut porté cette valeur du réalisme en le détachant justement d'un réel trop, parce que fait le cinéma français aujourd'hui, hein, trop proche de la sociologie, bon, qui n'est pas très intéressante. Il y a chez Borzeghi un réalisme enchanté, un réalisme miraculeux, comme tu en parlais tout à l'heure, par le travail de l'image, oui. par l'éclairage, par une position cinématographique qui consiste véritablement à approcher les visages. Et il y a dans Lucky Star vraiment l'actrice qui a été choisie pour Lucky Star, dont j'ai du mal à me rappeler son nom, tu le connais, son nom d'actrice.
Oui, Jeanette Gaynor.
Jeanette Gaynor, c'est pas du tout l'actrice comme on peut l'imaginer, américaine, pulpeuse, grande, etc., avec un physique de femme fatale. Pas du tout, c'est une jeune femme tout à fait normale, enfin avec un physique, on pourrait dire aussi de l'actrice contemporaine d'aujourd'hui, des films ayant de la valeur. C'est pas du tout l'actrice des studios américains. Elle est toute simple et en fait elle se révèle par Tim, mais aussi elle révèle Tim. Voilà, dans son désir amoureux, dans sa masculinité, dans son désir d'être, de se poser comme masculin aussi, hein, dans un mariage qui
oui,
viendrait.
Oui.
Bon. Y a là une position effectivement, comme tu le disais,
oui.
On est sur un même plan, on est
oui,
sur voilà.
La pureté va de pair avec cette simplicité que tu soulignes dans le casting déjà,
absolument.
Par le choix de ces acteurs et le naturel.
Absolument.
Rien n'est surfait, rien n'est sophistiqué. Nous n'entrons pas dans les canons hollywoodiens.
Absolument.
Hein, et finalement, tout cela est très intéressant puisque dans ce film. Il y a un côté, je dirais, mystique au sens où l'amour se situe entre le profane et le sacré, entre le quotidien et le miracle, pour fonder une réalité qui passe par le corps et l'esprit. C'est très important, cette dimension du corps, surtout dans le muet, où il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'intellectualisme, la conceptualisation des choses, on a l'image. Donc on est devant l'image comme devant un tableau. Et comme on est devant un tableau, hein, disait Leibniz, on apprécie le tout du tableau pour comprendre la partie, et réciproquement, mais la partie et le tout sont indissociables, dans ces petites parties, hein, je dirais ici détails du film, tu soulignais avant Jacques Brel, la présence des objets. Et quand Tim offre le gramophone à Marie, c'est déjà un premier contact physique. Au fond. Hein. Donc c'est un gramophone qu'elle conserve précieusement, qu'elle écoute avec amour, hein, dont elle va se servir avec amour. Au fond, ce cadeau, c'est pas seulement un cadeau anodin ou par hasard, ou tiens, j'ai ça, si tu veux. Non, c'est plus que ça. Tim comprend un appel de détresse chez Marie. Donc le corps passe par le regard, il passe par l'écoute. Et ça, c'est permis par le muet. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ces regards de personnages, à ces gestes, ces petits riens, ces regards, ces éclairages sur les visages des acteurs. Eh bien, c'est autant de signes qui progressent dans le film avec le temps du film, le temps de l'histoire. On prend le temps dans ce film. Des signes qui vont parler de résurrection, de renaissance. Et très symboliquement, cette renaissance, c'est bien Nathalie, elle passe par le corps. Tim va obliger d'abord Marie à se laver les mains avant de passer à table. Il va lui apprendre à utiliser son mouchoir plutôt que sa manche. Il va lui laver les cheveux avec des jaunes d'œufs. La Souillon va devenir au fil des jours une très jolie jeune fille et sa chevelure crasseuse révéler une blondeur insoupçonnée. Autrement dit, Tim, la nettoyant de sa crasse, la révèle à elle-même, il la fait ressusciter, il lui redonne au fond un corps. Et ce corps, il va naître sous la cascade. Alors ça, c'est aussi c'est Vénus qui naît des flots.
Complètement, c'est un très très beau plan.
Très très beau. Hein. Oui. Et là, finalement, la transformation, elle n'est pas seulement physique pour Mary, elle est aussi morale.
Absolument, c'est ça qui est formidable dans ce cinéma muet-là, c'est que en travaillant les corps, ils arrivent à nous faire... saisir qu'il y a une transformation de l'âme. Enfin, ça encore une fois sans dialogue. Il faut souligner que Mary, il y a cette opposition couple-famille, c'est-à-dire que Mary, c'est un produit de la famille, c'est le produit de la famille pauvre, c'est le produit d'une socialisation. Pourquoi elle est crasseuse? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas femme? Tout simplement parce que elle n'est pas dans un milieu social où elle peut se permettre d'être jolie, où elle peut se permettre de s'acheter des affaires. La seule fois où elle peut s'acheter des affaires pour aller à ce bal où elle va rencontrer l'ancien camarade militaire de Tim, c'est aussi parce que là, elle a un petit peu menti à sa maman, elle a gardé de l'argent de côté pour elle pour s'acheter cette robe. Elle appartient donc à un milieu social très pauvre, elle est la production d'un système social, hein, de classe, et elle est un produit de sa mère, effectivement, de la famille qui l'exploite et qui lui montre absolument pas ce qu'elle est en elle-même, enfin qui n'est pas, la famille n'est pas révélatrice de son âme et de son esprit et de son corps, elle n'est pas révélatrice de la singularité de Marie, c'est le couple, c'est la rencontre avec Tim qui va révéler Marie à elle-même et qui va, et ça c'est, je trouve ça très intéressant et en cela ce film est très moderne, je trouve ça très intéressant petit à petit cette séparation que Marie a déjà en elle vis-à-vis de la famille, mais que Tim va aider à véritablement rompre, parce que la famille est un enfermement. Bon, elle est un enfermement parce qu'elle est aussi le produit d'un système social qui peut être très dur. Et puis la famille, bon, ça c'est Aristote qui l'avait montré, c'est quand même aussi le départ de la figure du pouvoir. Hein. Bon, un gouvernant, un dominant, un dominé, un maître, un esclave. Bon.
Et puis c'est important, hein, ce que tu rappelles ici de Franck Borzégui, puisque on a commencé par dire le thème central de son œuvre, c'est l'amour, c'est le couple, il se concentre sur les partenaires. partenaire d'un couple, homme-femme, hein. Et pourtant, c'est aussi un cinéaste qui s'intéresse à cette réalité sociale et historique. Elle n'est pas absente de sa filmographie, notamment quand il filme l'Amérique délaissée pour compte dans Ceux de la zone, l'Allemagne préhitlérienne, dans Et demain, ou La Grande Guerre dans L'adieu aux armes.
Oui.
Ou encore ici même, hein, cette réalité sociale de la pauvreté, ce retour de la guerre quand on revient handicapé, la solitude... Hein, par rapport à ce rejet des autres, hein, quand on a un handicap. Donc,
et tout cela sans grandiloquence, parce que
voilà,
l'Amérique dans la pudeur, l'Amérique est capable de produire des grands films comme ça, avec, là encore, tu le soulignais tout à l'heure, avec un choix d'acteurs qui t'en met plein la vue, même si ce sont de grands acteurs, ça t'en met plein la vue, on sent bien que voilà. Mais là, ce sont des acteurs dont... qui travaille l'imperceptible, hein, qui travaille l'imperceptible. C'est pas du tout les acteurs stars. Ils étaient peut-être des stars et des très grands, mais en tout cas, il y a pas cette imposition de l'acteur star. Donc du coup, on y croit davantage. C'est pas le grand récit mythique américain, que le film se termine bien. Oui, mais c'est pas du tout un il se termine bien comme Hollywood est capable de produire du ça se termine bien.
Le happy end. Oui.
Voilà le happy end. Voilà un peu cliché. Là, c'est vraiment un happy end qui a surgi de haute lutte, vraiment, de la part de Tim et de la part de Mary. Enfin, il y a vraiment eu là une lutte contre tous les éléments de la famille, les éléments de la nature, les éléments humains, hein, à travers ce camarade, cet ex-camarade militaire là qui veut lui prendre Mary. Il y a vraiment là, on est dans l'anti-cinéma américain cliché tel qu'on peut l'envisager.
Il y avait des vraies trajectoires de personnages.
Oui, hein. Oui.
Et des changements, des métamorphoses. Et on suppose même, et c'est pour ça que, avant la chanson de Brel, j'ai dit qu'à mon sens, il n'y avait pas de manichéisme chez Borzegui, on peut espérer une conversion de la part de Rain à la fin.
Oui.
Donc,
qui se retire, il accepte de se retirer d'une certaine manière. Enfin,
voilà.
il est placé dans le train. Voilà, on raconte pas la petite bagarre finale, etc. Bon, si on peut dire la petite bagarre finale, mais on dit pas ce qui a précédé la bagarre finale, qui est absolument magnifique, tout ce plan séquence dans la neige dont Isabelle nous parle depuis le début. Et tu nous en as tellement bien parlé que je suis sûre que les gens vont se précipiter sur le film sur Internet. Mais finalement, Tim, bon, il capitule, mais c'est une capitulation. Bon, effectivement, tu as raison, on sent qu'il y a du changement possible, hein. Mais ça, c'est la force des grands cinéastes, c'est-à-dire que même le personnage négatif, entre guillemets, on l'aime. Enfin, celui qui l'a créé l'aime. Enfin, ça, c'est la force de tout grand créateur, romancier ou cinéaste. Il y a effectivement pas ce que tu disais à l'instant, un manichéisme au sens cliché du terme. Au contraire, il y a toujours possibilité du devenir, hein, d'un changement possible.
Et c'est très intéressant parce que cette possibilité du devenir, elle est en toile de fond du film, puisque ce devenir, il est aussi, je reviens à la neige que j'aime tant, symbolisé par la neige qui fait devenir le paysage, c'est-à-dire qui le fait passer d'un état à un autre. Oui. Qui le recouvre d'une nappe blanche. Cette neige qui devient elle-même et qui est un devenir en elle-même. Par le climat, hein.
Tout
voilà.
À fait.
C'est un phénomène climatique, la neige, qui passe, qui ne reste pas, et qui annonce, qui est une annonciation.
Oui.
Alors, c'est l'annonce peut-être à Marie, c'est l'annonce peut-être à l'amour, c'est-à-dire dans cette annonciation, il y a les prémices d'une fécondité, du couple, de l'amour, c'est-à-dire de la fécondité, de l'advenir mutuel. C'est vraiment le film d'une naissance mutuelle. Naissance de Mary par Tim, naissance de Tim par Mary, puisque Mary, hein, y a une très belle scène où il l'habille pour son bal, où elle comprend qu'elle est une femme, et dans cette conscience d'elle-même, eh bien, elle va redonner aussi confiance à Tim, et Tim, qui, depuis son retour de la guerre, est condamné à rester, hein, dans sa maison, ne le vit plus, ce handicap, comme une malédiction, puisque il vit, au fond, pour donner ou porter à la vie cette jeune fille. Hein, c'est presque, je dirais, la vocation de l'enseignant.
Ouais.
On se retire pour donner vie aux jeunes générations et on le fait avec un amour qui est tel qu'on est grandi par cet amour. Alors de prime abord, on pourrait se dire, ben, on n'a rien, on n'a pas de retour sur investissement, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Mais justement, c'est l'amour pur, l'amour désintéressé, je le redis à nos auditeurs, et cet amour pur qui se fait toujours dans cette pudeur, dans ce mitin, dans cette évanescence, cette labilité portée aussi par la neige, eh bien c'est cet amour qui va réinventer la vie. Et comme tu le disais tout à l'heure en parlant de Jean Renoir, c'est intéressant, moi je parlerai davantage de son père,
ouais.
Le
Auguste,
peintre,
hein. Auguste,
qui
ouais.
disait, le peintre a pour vocation d'embellir la vie.
Ouais.
Il s'agit de réenchanter le monde. Alors c'est vraiment des films à voir à notre époque, où on est tout le temps dans des filmographies catastrophes, où tout va mal,
oui,
on
et
est
puis,
tout le temps
hein,
en train
ouais,
de
ouais.
se plaindre, on parle plus de progrès, on parle plus de valeur, on parle plus du couple dans sa fidélité, on parle plus de sentiments purs, il faut consommer, il n'y a plus d'érotisme au cinéma, il y a une pornographie, on vous montre tout, c'est insupportable. Quoi.
Et puis il y a, bon moi j'attaque fortement le cinéma français pour ça, qui est très fort. Il y a une sociologie du cinéma, une espèce de psychologisation des acteurs. Enfin, le cinéma français, c'est d'une lourdeur à côté d'un film de Franck Borzégui.
Mon Dieu.
Non, mais arrêtons, quoi. Voilà, c'est vraiment, là, on a affaire à un... Je te remercie vraiment, Isabelle, de m'avoir fait découvrir ça. Je le dis à l'antenne parce que c'est... Voilà, je vais faire un petit cheminement. Mais je me rends compte qu'il faut que nous écoutions Édith Piaf un petit peu, quand même. Oui, je veux bien. Merci, Gilles.
Gilles, merci
Gilles, qui nous lance les musiques. Il faut qu'on écoute la grande Piaf et on fera une petite conclusion de rien du tout après. Chers auditeurs, merci de rester avec nous.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Chers auditeurs, après la merveilleuse voix d'Edith, nous allons conclure notre émission avec Nathalie Perrin sur Franck Borzégui.
Oui, quel dommage
de ne pas continuer à écouter Edith Piaf.
Et à parler de Borzégui, qui est vraiment une découverte pour moi.
Alors Borzégui, on peut conclure en disant que c'est un cinéaste qui a su jouer admirablement sur les éclairages, la texture de la lumière, et pour qui chaque image semble réagir aux états d'âme, aux sentiments de ses personnages. C'est vraiment, Nathalie, un cinéaste qui a su déployer pleinement son style en trouvant un point d'équilibre parfait, je pourrais dire, entre l'enseignement des maîtres allemands qui l'ont marqué, Murnau, je pense particulièrement à lui, je pense à l'Aurore, et la tradition cinématographique hollywoodienne, tradition cinématographique hollywoodienne, je pense à Ford. Et au-delà de cette synthèse, au fond, qu'il parvient à réaliser, l'admirable synthèse des deux grands mouvements du cinéma muet, il y a quand même une originalité marquante chez ce cinéaste, Franck Borzégui, une ambiance inimitable, une atmosphère incomparable qui n'existe que dans ses films de la fin du muet, la fin du cinéma muet. Et c'est vrai que dès les premiers plans, on voit ce que Nathalie vous disait tout à l'heure au sujet du réalisme social, cette imbrication, cette intrication entre le réalisme social et la féerie, l'enchantement, le réenchantement du monde, qui s'incarne dans l'image de cette ferme délabrée où survit Mary et sa famille, qui semble à la fois être un instantané de la crise de 1929.
Tout à fait.
Et une illustration du conte de fées. La petite bicoque de Blanche-Neige l'âtre de Cendrillon. Au fond, les paysages de Franck Borzégui parlent d'un réalisme social, d'une féerie ou d'un merveilleux. Il entrecroise, et ça c'est une originalité cinématographique chez lui, le merveilleux au réalisme, voire même au naturalisme. Et parfois ce naturalisme va jusqu'à la violence, la maltraitance de Marie par sa mère.
Complètement.
Et on va le retrouver dans L'heure suprême, dans L'ange de la rue, dans La femme au corbeau, toutes ces œuvres de Franck Borzégui qui font partie de cette constellation, on pourrait dire, d'étoiles, de grands chefs-d'œuvre qui, on le rappelle, furent quand même des échecs publics et critiques.
Oui, on le soulignait au tout début, le fait que de grands critiques en France aient visiblement très peu souligné l'importance de ce cinéaste. Il faudra continuer de chercher. J'ai même regardé d'ailleurs dans les films de ma vie de François Truffaut, je n'ai pas vu de mention de Borzégui, donc il faudra que je continue à chercher. Ça me paraît étonnant pour quelqu'un comme Truffaut d'ailleurs, donc là je vais vérifier, et on en parlera à la prochaine émission, mais parce que c'est Borzégui, à travers le couple, s'intéresse à la position de la femme. Et je crois que ça aurait pu marquer quelqu'un comme François Truffaut, qui est aussi quelqu'un qui travaille les rapports hommes-femmes, le couple. Donc il faudra que je vérifie, on en reparlera avec nos auditeurs. Bon, on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, on est sur Radio Aligre, un petit peu liberté, ça nous change. Et on va quand même, cher Gilles, es-tu d'accord de nous passer le dernier morceau qu'Isabelle avait choisi, de Florent Pagny, « Apprendre à aimer ». C'est magnifique ça de réentendre Pagny, Isabelle, c'est un
oui,
super choix.
Oui, avec plaisir, Nathalie. Réécoutons Pagny,
voilà.
Apprendre à aimer.
Et on se retrouve donc dans 15 jours.
À bientôt, chers auditeurs.
À très bientôt. Merci
à dans
beaucoup
15 jours.
De votre écoute. À
Bonne
bientôt,
journée
au revoir.
À tous.
Inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni hagard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux.